Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus discuter avec Jean Lopez de la question des mythes dans la Seconde Guerre mondiale et cette idée de démystifier donc la Seconde Guerre mondiale. Jean Lopez a revisité déjà un certain nombre de concepts sur le front germano-soviétique. Vous connaissez certainement ses ouvrages, je ne les cite pas tous, y compris son impressionnante biographie de Joukov. Nous sommes ici pour parler de, entre autres, cette manière de repenser le front germano-soviétique, mais également pour parler d'un certain nombre d'autres mythes qui, aujourd'hui, constituent des points importants pour la compréhension de la Seconde Guerre mondiale, et notamment en France, mais pas que. Peut-être, avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire d'aborder ces mythes, peut-être pouvons-nous commencer par réfléchir et par essayer de comprendre ce que nous entendons par mythe et en comment ces mythes sont nés, est-ce qu'ils sont nés partout ou pas, et à quelle logique cela renvoie-t-il ?
Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être à Bordeaux et je remercie cette belle maison MOLA de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant vous pour parler de cet ouvrage collectif, Les mythes de la Seconde Guerre mondiale, que je co-dirige avec Olivier Wieworka, qui est professeur à l'École normale supérieure. Donc la question de Nicolas Grapaillin est de savoir ce qu'on entend par un mythe de la Seconde Guerre mondiale. Bon, le mythe, je crois que ça peut se résumer de façon très simple. C'est une histoire, une explication qu'on donne à un phénomène qui souvent semble difficilement compréhensible ou dont on n'a pas suffisamment de sources pour le comprendre complètement. Alors on va raconter une histoire qu'on veut être cru. Alors la propagande, par exemple, en temps de guerre, est une grande pourvoyeuse de mythes. Quand Hitler attaque l'Union soviétique le 22 juin 1941, il en forge un de toutes pièces, qui est celui qu'il ne fait que devancer une attaque de Staline. Alors dans le mythe, il y a toujours un fond de vérité, un germe. Ce fond de vérité, c'est qu'il y a une impressionnante concentration de troupes à la frontière germano-soviétique, non seulement du côté allemand, mais également du côté soviétique. Il y a donc là un fond de vérité qui permet de dire, vous voyez, on ne fait que devancer une attaque des Rouges. Ça, c'est un mythe qui permet à Hitler d'expliquer à son peuple pourquoi il le lance dans une aventure terrible, dont on sait que la suite sera encore plus terrible que ce que tout le monde avait pu imaginer. Ça, c'est un mythe qui naît donc de la propagande. C'est un mythe forgé entièrement par Hitler. Goebbels n'a fait qu'embrayer sur ce mythe. Il l'a exploité, il l'a décliné. Il y a aussi des mythes qui peuvent aider à faire passer un épisode douloureux de l'histoire et qui peuvent permettre à un peuple de se reconstruire. Par exemple, probablement la douleur la plus cuisante au cœur de tous les Français, c'est la défaite de mai-juin 1940. C'est évidemment quelque chose qui, dans l'histoire d'un pays, laisse des meurtrissures très, très profondes, hein, juste même pour ceux qui ne l'ont pas connu. Moi, je suis né après la guerre, mais je sais que ça reste dans mon cœur de Français, une blessure au fer rouge. C'est quelque chose que toute une nation a beaucoup de mal à surmonter. Alors là, il y a eu pléthore d'explications qui ont été apportées par le maréchal Pétain et son régime, par le général de Gaulle à Londres, par le cinéma, parce que le cinéma est aussi un grand pourvoyeur de mythes. Donc là, on a la propagande, le cinéma, les différentes familles politiques, tout ça fabrique du mythe à répétition. On peut en donner une telle quantité qu'il y a des mythes à usage interne. Par exemple, cette idée qu'en France, parmi les résistants, les cheminots en France se sont bâtis une réputation de super résistants. Ils ont résisté plus que toutes les autres catégories professionnelles. Dans cet ouvrage, un spécialiste nous explique que rien ne permet d'étayer cette idée. Et le même historien démonte l'origine de ce mythe du cheminot absolument résistant, parce que c'est un mythe, c'est quelque chose qui s'est forgé en 1946-1947 autour de la personnalité de Louis Armand, président de la SNCF et homme de grande influence dans les gouvernements de cette époque-là. afin de ressouder la famille des cheminots dont on sait qu'elle était travaillée par tout un tas de luttes politiques et syndicales extrêmement violentes. Et ça a permis de faire cette unité des cheminots qui était appelée à reconstruire le réseau national autour de leur vaillance, leur engagement. Alors, où il est le mythe dans ce cas précis? Il faut faire attention. Le mythe, il est dans l'idée qu'ils ont été super résistants, c'est-à-dire plus résistants que tous les autres. Soit parce que leur résistance a été plus efficace, soit parce qu'elle a été plus nombreuse et plus diversifiée. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce que l'historien va démontrer, c'est que les choses ne sont pas aussi univoques. C'est qu'à un moment donné, il peut y avoir une surreprésentation des cheminots et à d'autres moments une sous-représentation. Mais en tout et cas de cause, on ne peut pas dire qu'ils ont été plus résistants que les autres. Ça n'est pas possible, c'est un mythe. Donc le mythe, c'est une histoire qu'on raconte pour servir une fin particulière qui n'est pas la vérité telle que les historiens essayent de la mettre au jour, humblement, tous les jours.
Merci beaucoup. Alors, on se rend compte qu'en lisant cet ouvrage, en regardant un peu les travaux des différents spécialistes, que les mythes peuvent s'attacher à différents types de logique, à différents types d'intervenants, d'acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je pense à des unités, je pense même à des corps d'armée, mais également à des personnages ou à des événements. Bref, finalement, tout ce qui constitue la Seconde Guerre mondiale a pu être touchée par cette approche mythique. On va peut-être prendre un exemple qui est assez parlant, puisqu'en ce qui concerne par exemple les unités. Il y a deux chapitres remarquables dans ce livre qui expliquent d'une part que la Waffen-SS n'était peut-être pas l'unité d'élite qu'elle essayait de prétendre, et inversement, qu'une armée qui a une image un petit peu écornée, l'armée italienne, n'a peut-être pas si mal combattu quand elle a été engagée, et engagée en tout cas avec les moyens nécessaires pour ses attaques ou sa défense. Donc est-ce que par exemple sur ces deux unités, vous pourriez un peu nous expliquer en quoi il y a des constructions mythiques qui ne sont pas nécessairement les mêmes d'ailleurs?
Donc en ce qui concerne les SS, l'idée reçue, et qui a été démoli par un de nos meilleurs historiens de la chose militaire, M. Leleu, l'idée reçue, c'est que la Waffen-SS, donc la branche armée de l'organisation des SS, représente l'élite des forces armées allemandes, ce qu'elle a pu employer de meilleur au combat. Le mythe, c'est son efficacité militaire supérieure à tout le reste de l'armée allemande. Nous parlons des Italiens ailleurs. Là, le mythe, il est inverse. C'est cette idée que les Italiens ont été de fort mauvais combattants, probablement les plus mauvais, les plus piètres de la Seconde Guerre mondiale. Je reviendrai, parce que ce sont deux idées évidemment qui sont très différentes l'une de l'autre. Concernant la Waffen-SS, nous avons presque tous en tête ces images de la propagande allemande qui passait en boucle et qu'a récupéré le cinéma américain pour nous expliquer qu'on avait affaire à une sorte de garde noire du Führer, des unités très difficiles à vaincre, capables d'accepter des taux de perte ahurissantes et atteignant presque toujours son but. Cette idée, comme je vous disais, a été mise à mal par un certain nombre d'historiens allemands, je pense à Christian Hartmann par exemple, mais je pense aussi à M. Leleu qui a contribué à cet ouvrage. D'où vient cette idée et pourquoi est-elle fausse? Alors, elle est fausse déjà si on regarde les taux de perte. Il faut regarder, est-ce que les SS sont morts plus que les autres? Non, ils ne sont pas plus. Une unité blindée de la Waffen-SS n'a pas plus de pertes qu'une Panzer-Division de la Wehrmacht. Est-ce qu'elles ont contribué à renverser le sort d'une bataille? Non, nulle part. Nulle part. À Koursk, sur le front de l'Est où elles ont été massivement engagées, elles n'ont en rien mieux performé, c'est-à-dire atteint leur mission avec des pertes moindres que les unités de la Wehrmacht en général. Ont-elles infléchi le sort durant la bataille de Normandie? Pas plus. Ce sont-elles, il faut voir là nos amis du mémorial de Caen, ce sont-elles mieux comportées que les unités de la Wehrmacht, que les parachutistes par exemple, ou même qu'une division d'infanterie moyenne? Non, c'est faux. Alors, les taux de perte ne corroborent pas, l'analyse des opérations ne corrobore pas cette affaire qu'on a affaire à des super guerriers d'élite. Mais alors, d'où vient le mythe? Qui a raconté cette histoire? Il y a plusieurs acteurs pour raconter cette histoire, et chacun des acteurs n'y trouve pas le même intérêt. Mais l'origine de cette idée est évidemment à chercher dans les cercles nazis eux-mêmes. Je vous rappelle que la Waffen-SS n'appartient pas à l'armée allemande. C'est une organisation politique qui dépend du parti nazi. C'est donc la branche armée du parti nazi. Elle n'appartient pas à ce qu'on appelle la Wehrmacht, ce qui en allemand veut dire les forces armées, marine, aviation, armée de terre. Elle est distincte. Elle intervient tardivement dans la guerre. Il y a peu d'unités SS en 1939, en 1940. Elles commencent à apparaître réellement en 1942, puis deviennent de plus en plus importantes, jusqu'à représenter près de 500 000 hommes en 1944 et 1945. N'appartenant pas à l'armée allemande, son promoteur Heinrich Himmler, donc le Reichsführer SS, a tout de suite eu un problème d'accès à un corps d'officiers compétent. Son corps d'officiers ne pouvait pas aller le chercher dans l'armée régulière. Il a donc fallu qu'il aille les chercher ailleurs. Et très souvent, il est allé chercher, par exemple, des chefs de camps de concentration. Les deux plus connus des chefs de la Waffen-SS sont le patron du camp de Dachau et l'autre celui de Buchenwald. Ces hommes étaient-ils armés pour faire face aux exigences de la guerre blindée moderne? Non. Non. Et cette déficience du corps des officiers de la Waffen-SS est quelque chose qui va les suivre longtemps. Les officiers de la Waffen-SS sont moins bien formés, plus vite, donc moins bien, que leurs homologues de la Wehrmacht. Et c'est pour ça que leurs taux de perte sont plus importants au début de la guerre. Car ils ne savent pas encore réellement se battre. Vous savez, encaisser des taux de perte, en général, ça veut dire qu'on n'est pas très bon dans son métier. Il y a beaucoup de déchets. Et ça, c'est un problème de formation qui va rester récurrent jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, ça commencera à s'estomper vaguement à partir de 1944, mais cette infériorité du commandement SS par rapport au commandement des unités équivalentes de l'armée allemande est une évidence. Donc, difficulté à recruter. Pour recruter, malgré tout, des officiers mais aussi des soldats, il a fallu mettre en scène, faire de la réclame pour la SS. Et là, je dirais que c'est l'intelligence d'Himmler, c'est d'avoir trouvé le moyen d'imposer l'image de l'ASS comme corps d'élite à travers les médias allemands. Goebbels s'en plaint dans son journal en disant « mais c'est pas normal, les SS représentent 5% des unités de l'armée de terre allemande et elles monopolisent 30 à 40% des actualités télévisées. Il y a une surreprésentation, on ne voit qu'eux. On ne voit qu'eux parce que leur communication est extrêmement bien organisée. Himmler a mis des hommes et de l'argent sur la table. Il a veillé à des aspects qui aujourd'hui peuvent prêter à sourire. Par exemple, la qualité esthétique et vestimentaire de la SS a été travaillée avec des stylistes et des couturiers. Vous connaissez tous le nom d'Hugo Boss. Hugo Boss est le styliste de la Waffen-SS et on lui reconnaît un certain talent dans ce domaine. Donc ils ont tout fait au niveau des affiches, au niveau de l'esthétique vestimentaire, pour attirer les jeunes Allemands vers eux. Ils se sont débrouillés pour avoir une communication, et notamment des compagnies de propagande, beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus en prise avec les principaux journaux, les journaux cinématographiques et les journaux écrits de la presse allemande. Donc ils ont une communication qui leur assure une surface, une présence beaucoup plus importante. Et cela a beaucoup contribué au mythe. Et, à l'inverse, les Alliés eux-mêmes ont alimenté ce mythe, car les SS ont fait peur et ils ont été systématiquement survalorisés, notamment par les Américains pendant la bataille de Normandie. Il fallait aussi expliquer aux nations occidentales à quel point c'était difficile de progresser dans le bocage. Alors on trouvait l'explication toute faite, c'est parce qu'en face de nous, il y a un certain nombre d'unités SS. Donc les Alliés eux-mêmes ont été complices de ce jeu-là. Et ce qui est très instructif, c'est de lire les compte rendu d'interrogatoire que les Américains vont établir systématiquement en 1945 lorsqu'ils vont s'emparer de dizaines de milliers de SS et de plusieurs milliers d'officiers. Ils vont systématiquement les interroger pour situer leur niveau de compétence opérationnelle. Et là, c'est une énorme déception. Les Américains se rendent compte que leur compétence est nettement moindre que les officiers de la Wehrmacht, de ceux de la marine, de l'aviation ou de l'armée de terre. Donc là, le mythe est tombé, mais il a eu une seconde vie par le cinéma et on continue aujourd'hui, régulièrement, lorsqu'on veut faire peur ou captiver, à montrer des unités SS. Mais là, je pense que la messe est dite, ni par leur performance, ne leur permettent pas d'être à ce niveau de revendication en matière de compétences militaires. L'autre question de Nicolas concerne les Italiens. Ça, c'est un mythe parmi les plus intéressants. Quel est-il ? Il est double. Et je dirais que les deux aspects du mythe sont complémentaires et indissociables. Cette idée que les Italiens, d'un côté, sont de piètres soldats, et de l'autre, de dire qu'ils sont brava gente, des braves gens, incapables de commettre des crimes de guerre, par exemple. Ça va ensemble. Des gens qui n'ont pas, au fond, quand vous mettez les deux mythes côte à côte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, nous, peuple italien, finalement, on n'a pas voulu se battre pour Hitler, avec Hitler et aux côtés d'Hitler. Nous sommes des braves gens paisibles. En aucun cas, nous n'avons marché dans les combines de Mussolini. C'est ça que ça veut dire. Vous pouvez en déduire l'époque à laquelle est né ce mythe des Italiens très piètres soldats qui ne voulaient pas se battre et qui étaient incapables de réellement commettre les atrocités qu'on mettait au compte des Allemands. Ce mythe est né en 1946-1947, au moment où la nouvelle République italienne a eu besoin de se reconstruire, d'oublier son passé fasciste et intégrer le nouveau cadre occidental démocratique sous parapluie américain qui lui était tendu à partir de la guerre froide de 1947-1948. Je dirais donc que ce mythe de l'Italien qui ne veut pas se battre et qui ne fait pas de mal est né pour faciliter l'oubli de certains faits gênants pendant la Seconde Guerre mondiale. Car les deux aspects du mythe sont faux, également faux. D'abord, cette idée que les Italiens n'auraient pas voulu se battre. Ils se sont battus sur tous les fronts où ils ont été engagés. Et réfléchissez, parce qu'ils ont été engagés partout. Ils se sont battus en Éthiopie en 1935-1936, première agression de Mussolini. Ils se sont battus pendant toute la guerre d'Espagne, où ils ont fourni un corps motorisé sans lequel Franco n'aurait pas pu l'emporter sur la République. Et ils se sont bien battus. Malgré un revers, mais pour un revers, je peux vous citer 5 ou 6 victoires retentissantes. Ils se sont battus en Afrique. Ils se sont battus en Afrique du Nord, mais aussi en Afrique orientale. Ils se sont battus en Grèce. Ils se sont battus sur le Don, entre Stalingrad et Voronej, un endroit où il ne faisait pas bon être pendant l'hiver 1942-1943. Ils se sont battus sur mer, courageusement, et dans les airs. Ils ont même participé, ce qu'on ignore beaucoup, à la bataille d'Angleterre, la bataille aérienne, et à la bataille de l'Atlantique, à bord de leurs sous-marins et de leurs vedettes rapides. Les Italiens ont donc pleinement participé à la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas particulièrement rechigné à le faire. Ils ont voulu la faire. La plupart ont suivi Mussolini, ils ont obéi à leur commandement, à leur structure politique, ils ont suivi le régime, jusqu'à un certain point, bien sûr, jusqu'au moment où le régime a été écarté par le coup d'État de juillet 1943, et où là, effectivement, ça a été la débandade. Mais les Italiens se sont battus. Se sont-ils mal battus ? Pas toujours. Ils se sont mal battus lorsque leur commandement les a lancés dans des aventures qui ont été mal préparées, où la logistique a été systématiquement déficiente et où on a sous-estimé l'adversaire. Je pense notamment à la campagne de Grèce en octobre 1940 ou à la campagne contre les Anglais en Afrique du Nord à la fin 1940 et au début 1941. Là, c'est vrai, les résultats ne sont pas bons, mais le soldat italien a fait ce qu'il a pu dans les conditions les plus terribles qu'il soit. lorsqu'ils sont correctement commandés. Car il y a de très bons généraux, je pense notamment au général Messe, que même les Allemands ont salué comme étant un général particulièrement efficace et capable de se remettre ses hommes. Lorsqu'ils ont été correctement commandés, lorsque les Allemands leur ont remis le minimum de matériel, je pense au matériel anti-char sur le front de l'Est, ils se sont comportés de façon tout à fait honorable. Les Soviétiques eux-mêmes l'ont reconnu lors de la percée entre Voronej et Stalingrad à l'hiver 42-43. Même en Afrique du Nord, on s'est beaucoup moqué d'eux, c'était le fameux mot qui circulait dans les rues de Marseille pendant l'occupation, à la camionnette, tout ça. Mon enfance a été bercée, j'avais un oncle marseillais qui me répondait tout, il me racontait toujours cette histoire. Quand on dit aux soldats italiens à la baïonnette, il entend à la camionnette. C'est des moqueries assez faciles. Mais même en Afrique du Nord, le soldat italien, quand il est convenablement encadré, surtout quand il a le ravitaillement nécessaire, la plupart du temps il n'est même pas d'eau, s'est battu correctement. Donc là, il y a un mythe, cette idée que l'italien n'est consubstantiellement pas capable de se battre. C'est pas vrai. Il s'est battu dans des conditions extrêmement défavorables. Quand il a fallu mourir, il l'a fait. 400 000 morts sur les champs de bataille, c'est pas rien. La deuxième idée, italien brava gente, qui va avec la première, on veut pas se battre, c'est cette idée que partout et systématiquement, l'italien aurait saboté les ordres que c'est alliés allemands pouvaient donner, qu'ils auraient systématiquement protégé les juifs dans la zone sud occupée entre Menton et Grenoble, ou que dans leur tâche d'occupation dans les Balkans, en Grèce ou en Yougoslavie, ils auraient été particulièrement gentils avec les populations locales. Aujourd'hui, tout ça est absolument remis en question. Les Italiens se sont rendus coupables, notamment dans les Balkans, de crimes de guerre extrêmement graves et massifs, avec des dizaines de milliers de victimes serbes, notamment, ou des Grecs, des villages entiers, façon SS en Russie, qui ont été exécutés militairement dans des conditions abominables. Donc là, vous avez un double mythe, et encore une fois, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que on montre qu'il est faux, donc il ne s'applique pas à toutes les situations que présente la Seconde Guerre mondiale, mais surtout on essaye de retracer sa genèse, de dire qui l'a créé et à quelle fin.
Alors, on parlait d'efficacité sur la question des unités. On peut sans doute aussi se poser la même question sur la question de l'emploi d'un certain nombre d'armes. Alors, on pense évidemment aux armes miracles qui auraient pu être, mais si on reste sur du réel et du non fantasmé, déjà sur la question des bombardements. Est-ce que les bombardements ont été efficaces? Est-ce qu'ils ont réellement, c'est un peu le mythe qui nous habite, est-ce qu'ils ont réellement précipité, voire carrément assumé, la destruction de l'Allemagne, en tout cas de son outil industriel et militaire, qui a permis ensuite, finalement, que l'Allemagne s'écroule de l'intérieur? Peut-être une question liée, mais ce sont peut-être deux questions différentes, vous trancherez, la question de l'efficacité de Pearl Harbor, qui est aujourd'hui encore perçue comme une opération extrêmement réussie et qui, finalement, aurait pu, je ne sais pas, peut-être retarder de manière massive l'entrée en guerre, en tout cas de manière efficace, des États-Unis. Encore une fois, ce sont peut-être des problématiques différentes, mais en tout cas, sur quelle efficacité et pourquoi nous sommes aujourd'hui persuadés que les bombardements ont été efficaces.
On va commencer par Pearl Harbor, parce que c'est finalement le mythe le plus facile à exécuter. Pearl Harbor, grande victoire japonaise. Non. Catastrophe japonaise. Début d'une catastrophe japonaise. Voyons comment on peut présenter les choses. Ce 7 décembre donc 1941, à l'aube, plusieurs centaines d'avions bombardiers et torpilleurs japonais décollent de six porte-avions et s'en vont attaquer la flotte du Pacifique qui se trouve à l'ancre ou à quai dans la rade de Pearl Harbor aux îles Hawaï. Immédiatement, la propagande japonaise a monté en épingle. Et les journaux américains eux-mêmes ont titré le 8 décembre au matin que leur flotte avait été anéantie. Du côté japonais, on comprend pourquoi ils grossissent leur victoire. C'est pour donner confiance à leur peuple en disant « on a marqué un coup décisif, ça donne de l'allant, du moral aux soldats ». Côté américain, il est intéressant de comprendre que les Américains ont intérêt à grossir l'affaire, qui n'est pas rien, hein, bien sûr, un attentat, c'est le 11 septembre, mais clairement identifié et immédiatement identifié, ils ont intérêt à grossir parce que Roosevelt veut s'assurer du soutien massif de l'Amérique, ce qui n'était pas gagné à cette époque-là. Beaucoup d'Américains étaient isolationnistes et ne voulaient pas rentrer dans la Seconde Guerre mondiale. Donc Roosevelt a aussi fait mousser cette grande défaite pour dire aux Américains, maintenant, on nous a provoqué, on va voir ce qu'on va voir. Quelle est la réalité du résultat? Une fois que la fumée des incendies s'est dissipée et qu'on regarde concrètement ce qu'ont réussi les Japonais, on s'aperçoit qu'ils ont détruit de façon définitive 3 navires. Trois cuirassés. Dont 2 dataient de la guerre de 14, complètement obsolètes, et dont le 3e était tellement hors d'usage qu'il servait de bateau cible. Ça ne servait à rien, ce n'est pas des unités de combat. Donc l'opération de Pearl Harbor, qui provoque l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon, se traduit en tout et pour tout par 3 destructions de navires qui, de toute façon, n'auraient pas été utilisés dans cette guerre. Les autres navires, les autres cuirassés qui sont touchés, sont renfloués et 6 mois plus tard, ils sont au combat. Quant à l'essentiel, la flotte aéronavale, les groupes aéronavals américains, c'est-à-dire les porte-avions, ils ne sont pas là, ils ne sont pas à Pearl Harbor. Il y en a aux Philippines, 2 autres dans le Pacifique. Et leurs escadres d'accompagnement, les croiseurs lourds et la myriade de destroyers, ne sont pas touchés par les Japonais. Au niveau opérationnel, les Japonais ont donc littéralement réussi un coup d'épée dans l'eau. En aucun cas, ils n'ont mis hors de combat la flotte des États-Unis. D'ailleurs, quelques mois plus tard, à peine au mois de mai 1942, à la bataille de Midway, ils sont battus de façon définitive par ce qu'ils auraient dû détruire à Pearl Harbor. Et on n'en parle plus, l'affaire est réglée. Il y a donc, on ne peut en aucun cas écrire que Pearl Harbor soit une grande victoire japonaise. Il y a un petit avantage tactique, mais qui est complètement annulé, parce que l'opération est un fiasco en réalité. Il s'agissait de mettre hors de combat la flotte. La flotte n'est pas mise hors de combat. Elle est tout de suite au combat après. Et au niveau stratégique, c'est évidemment le désastre absolu, puisque le Japon se retrouve en guerre avec la première puissance du monde. Pensez simplement que le Japon produit 11 fois moins d'acier que les États-Unis, 25 fois moins d'aluminium. Les Américains vont faire la guerre submergée par une vague de pétrole, les Japonais n'en ont pas, il va falloir qu'ils aillent chercher les ressources aux Indes néerlandaises. Donc le jeu, il est posé d'entrée. C'est un désastre, Pearl Harbor est un désastre stratégique, un demi-échec opérationnel et un petit succès tactique. L'affaire des bombardements sur l'Allemagne est plus complexe. Vous le savez tous, à partir de fin 1940, début 1941, les Anglais commencent à bombarder l'Allemagne de nuit, avec des quadrimoteurs, qui est un appareil très avancé pour l'époque, dont les Allemands n'ont pas l'équivalent. Ils n'ont pas parié sur le bombardement stratégique, ils n'ont donc pas de quadrimoteur capable d'aller porter des bombes profondément dans le territoire ennemi et de s'en prendre à son potentiel industriel et humain. Mais les choses vont monter en puissance. Les Anglais vont bombarder de plus en plus en 1942, mais les quantités de bombes ne sont pas encore très importantes. En 1943, les choses deviennent plus sérieuses parce qu'arrivent les premières formations de B-17 forteresses volantes américaines qui, elles, vont bombarder 2 jours. Donc les Allemands vont avoir à partir de la mi-43, 2 jours les B-17, 2 nuits les Lancaster et les Halifax britanniques. Et à partir de septembre 1943, le nombre de missions ne va cesser de s'accroître jusqu'à devenir quotidienne et bicotidienne à partir de mai 1944. Évidemment, à partir de là, les populations allemandes vont vivre l'enfer sur Terre, puisque jour et nuit, les grands centres urbains et industriels sont attaqués par des raids qui peuvent aller jusqu'à 1100 bombardiers d'un coup. La chasse allemande est complètement dépassée. Il y a de plus en plus de chasseurs à longue durée d'action, les fameux Mustangs ou les P-38 Lightning qui accompagnent ces forteresses et qui rendent la chasse allemande totalement inefficace. À la fin de la guerre, quand les Américains, les Anglais, les Français et les Soviétiques rentrent en Allemagne, ils découvrent des villes qui sont dévastées. Ils ont retiré le sentiment légitime que on a fini le boulot au sol, mais le travail était déjà fait, l'Allemagne était battue, et c'est les avions qui l'ont battue. En 1945-46, le gouvernement des États-Unis fait procéder, ça c'est typiquement américain, à une évaluation de l'efficacité du bombardement. C'est un énorme rapport que vous pouvez vous procurer d'ailleurs gratuitement sur Internet, mais il faut lire l'anglais, mais vous verrez, c'est bourré de chiffres, c'est extrêmement, parfois un peu difficile à démêler, mais c'est très intéressant de voir les conclusions auxquelles arrivent les Américains. Alors, tout n'est pas dit dans ce rapport, mais en gros, les Américains s'aperçoivent que ce qu'ils ont détruit, c'est essentiellement des quartiers d'habitation dans les grandes villes. C'est le plus spectaculaire. Mais cette industrie qu'ils voulaient démolir, elle s'est largement cachée en souterrain. Dès la fin 1942, Albert Speer a fait enterrer les usines les plus importantes. Les réserves de carburant ont été enterrées, les usines de roulement à billes, les usines travaillant l'aluminium, notamment les usines Messerschmitt, tout ça s'est enterré. Plus moyen de les atteindre par les bombardements. Donc ce n'est pas les usines de montage, les usines de chars, pareil, hein, en grande partie, elles sont enterrées. Ce n'est pas ça que les Américains ont détruit. Et leurs bombardements ont été contre-productifs jusqu'à une date très précise que je vais vous indiquer tout à l'heure. Ils ont été contre-productifs d'une part parce que ça n'a pas vraiment freiné la production allemande. La production allemande monte en flèche en 1943 et 1944, malgré la pluie de bombes. Elle monte en flèche. Ils ne cessent de battre mois après mois les records de production de chars, de sous-marins, d'armes automatiques, d'avions. C'est bien la preuve que les bombardements ne sont que très modérément efficaces. Mais surtout, on s'aperçoit qu'ils fournissent à Goebbels, le ministre de la Propagande, une merveilleuse arme pour ressouder le moral d'un peuple qui commence à douter vu l'accumulation de défaites, notamment sur le front de l'Est. Et le régime va retrouver l'unité nationale autour de la haine des anglo-saxons, parce que, évidemment, le soldat allemand, quand il vient de permission et qu'il voit que le quartier où il habite est totalement détruit, que peut-être sa femme, ses enfants sont morts, que les voisins qu'il connaît sont morts, il va en déduire que c'est totalement injuste, que ce sont des armes déloyales, que ce sont des crimes de guerre abominables, qu'on s'en prend aux civils, et ça va... Contrairement aux attentes, ça va ressouder le moral du peuple allemand, ça va le durcir et ça va accroître son adhésion au régime nazi. Donc là, c'est contre-productif. Là, les bombardements n'ont pas atteint leur objectif. Finalement, ces bombardements ne se révéleront de quelque utilité qu'à partir du mois de mai 1944, quand les Américains mettent le doigt sur ce qu'il faut détruire. Là, il y avait une chose qu'il fallait détruire. Et qu'ils se donnent les moyens d'y parvenir. Cette chose qu'il fallait détruire, ce sont les usines de transformation du charbon en pétrole. C'est que les Allemands sont traditionnellement de bons chimistes, et ils avaient un certain nombre de brevets qui leur permettaient de transformer le charbon en hydrocarbure liquide. Il y avait deux procédés, une vingtaine d'usines dispersées dans l'Allemagne, et ce sont ces usines qui permettaient d'obtenir notamment les carburants à haut indice d'octane nécessaire aux moteurs des avions. Quand les Américains ont identifié cette cible, qu'ils connaissaient déjà, mais qui n'avaient pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils n'avaient pas encore les moyens techniques de les aplatir. Quand les Américains ont commencé à les identifier, à partir des raids de la mi-mai 1944, c'est, alors là, les Allemands ont compris que c'était fichu. On a des lettres de Speer qui montrent que, là, il a compris que c'est terminé. La guerre va se terminer faute de carburant. Donc là, ça, véritablement, ces bombardements ciblés ont commencé à être efficaces. Mais malgré cela, il n'y a pas de reddition du Troisième Reich tant que les unités ne franchissent pas le Rhin ou l'Elbe ou la Vistule. Hitler ne se rendra que lorsque l'armée rouge... Enfin, il ne se rendra pas. Il se suicidera que lorsque l'armée rouge sera à Berlin. C'est quand même, si vous voulez, la victoire n'a quand même été obtenue que sur le terrain. On a survalorisé l'arme aérienne. Et du coup, vous pouvez en déduire qui a alimenté le mythe de cette terrible efficacité des bombardements. Ben c'est la future US Air Force, qui est un lobby, hein, aujourd'hui, même encore aujourd'hui. C'est un véritable lobby au sein des armées des États-Unis, que cette aviation qui prétend encore aujourd'hui. Hein, on a eu le discours en Syrie, en Irak, un peu partout. On a cette idée que l'aviation à elle seule est capable de gagner une guerre. On a quand même pu vérifier que ce soit en Irak ou en Syrie, que ça n'est pas le cas, qu'il faut quand même au bout d'un moment mettre des bons hommes sur le terrain, parce que sinon on n'arrivera pas à obtenir la capitulation, il fallait l'occuper physiquement. Mais ce mythe, il est né pendant la Seconde Guerre mondiale, des bombardements massifs de la population allemande qui ont entraîné entre 375 et 450 000 morts civils environ. Au Japon, vous avez à peu près le même raisonnement à apporter, avec encore plus de victimes. On est proche des 600, des 700 000 victimes civiles des bombardements par B-29, là, un appareil encore plus perfectionné, plus gros, à partir de 1944.
Alors, au Japon, il y a quand même la question de la bombe atomique, qui, elle, nous met dans une question différente. Est-ce que là, la question de l'efficacité du bombardement se repose, ou doit-on aller chercher la raison, finalement, de la capitulation ailleurs également?
Alors ça, c'est un mythe auquel on est tous accrochés, c'est cette idée que les Japonais n'ont déposé les armes qu'après le double bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, en août 1945. De ça, nous en sommes à peu près tous persuadés, surtout quand on a la violence, le choc des images d'archives qu'on a tous vues à un moment ou à un autre, on se dit oui, face à ça, même les Japonais sont obligés de se rendre. Alors, cette idée n'est que très partiellement vraie. Elle a été contrebattue par un certain nombre d'historiens américains qui ont montré que les militaires japonais voulaient continuer le combat après Nagasaki, la deuxième bombe. Hiroshima, bombe à uranium, Nagasaki, bombe au plutonium. Les Japonais se disent, on va continuer. D'abord parce qu'on pense que les Américains n'ont que deux bombes et que ça va leur prendre du temps pour en fabriquer d'autres. Et ensuite parce qu'on va prendre des mesures de rétorsion et ils proposent par exemple de récupérer tous les prisonniers américains, anglais, militaires et civils, de les ramener de leur lieu de détention dans les grandes villes japonaises, en disant, vous voulez bombarder, ben allez-y, vous allez d'abord tuer vos propres soldats. Ça aurait pu marcher. En tout cas, c'était un élément de nature à faire réfléchir le président Truman. Puis-je tuer des dizaines de milliers de mes hommes? Donc une partie du haut commandement japonais ne croit pas que ces bombardements n'ont pas détruit sa volonté de continuer la guerre. Et pourtant, nous savons que quelques jours après le bombardement de Nagasaki, dans un geste inouï, l'empereur du Japon, Hirohito, va s'adresser, ce qu'il n'avait jamais fait, à son peuple à la radio, et annoncer qu'il faut déposer les armes, que la guerre est perdue. C'est donc que le mythe est vérifié. Oui, Hirohito, qui lui seul avait pouvoir pour obliger les militaires à déposer les armes, a été convaincu de le faire par les explosions atomiques. Eh bien non, ça n'est pas aussi simple. Il y a un autre événement qui s'est produit le même jour que le bombardement de Nagasaki et qui probablement a pesé d'un poids énorme dans la décision de l'empereur. Cet événement, c'est le déclenchement par l'armée soviétique de la plus grosse opération militaire de la Seconde Guerre mondiale, l'une des plus audacieuses, c'est la campagne de Mandchourie. Entre le 8 et le 9 août 1945, l'armée rouge lance une offensive absolument dévastatrice en Mandchourie, où elle va écraser la dernière et la meilleure des armées japonaises dans le Kwantung, avancer de 1500 km en 8 jours, s'emparer de dernières bases d'industrie lourde des Japonais et arriver sur la mer d'Okhotsk, c'est-à-dire en face du Japon. Elle n'a qu'un saut à faire pour débarquer au Japon. La marine impériale japonaise ayant été envoyée par le fond plusieurs mois auparavant. L'empereur du Japon s'est donc trouvé face à deux phénomènes, deux événements parallèles et concomitants dans le temps, les bombardements atomiques et la désintégration de sa dernière armée et l'arrivée des soviétiques à quelques encablures des côtes japonaises. Les deux périls ne sont pas les mêmes. Avec les soviétiques, ce qui se profile, c'est un changement de la structure sociale et politique du Japon, et notamment la disparition de l'institution impériale. Ça a beaucoup pesé, évidemment, dans l'esprit de Hirohito, pour l'amener à expliquer à son peuple qu'il devait accepter de déposer les armes. Et ce qui est très intéressant, c'est son discours. Il lui dit: on dépose des armes parce qu'on utilise contre nous des armes meurtrières d'une barbarie inouïe. Et là, l'empereur fait coup double, parce que ça permet à son peuple de sauver l'honneur, en quelque sorte. On s'est battu comme des lions et nous cédons devant l'inhumain, devant l'emploi d'une arme abominable, ce qui permet de renverser la charge du crime et de dire: nous, Japonais, nous sommes des victimes, les criminels, ce sont les Américains. Du côté américain, on alimente aussi le mythe, pour une autre raison. Et on a intérêt à dire que c'est bien les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki qui ont obligé le Japon à déposer les armes. Déjà parce qu'il faut justifier devant le contribuable américain des énormes dépenses de cette arme dont personne ne sait rien. Il faut démontrer que ça marche. C'est aussi trivial, c'est le taxpayer aux États-Unis, c'est pas rien, le contribuable, il faut lui rendre des comptes, il paye, il veut savoir pourquoi. Ben là, on lui montre à quoi a servi ce projet Manhattan mené pendant 3 ans dans le plus grand secret. Donc côté américain, on a aussi intérêt à magnifier le pouvoir de l'atome, surtout que ça permet aussi au président Truman, qui a succédé à Roosevelt, qui est mort quelques mois auparavant, d'adresser à l'oncle Joe, c'est-à-dire à Staline, un message en lui disant: mon petit père, attention, maintenant je dispose de quelque chose de dévastateur qui m'a permis de mettre à genoux l'Empire du Japon avec 2 frappes seulement. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de concomitance des intérêts entre, d'un côté, l'empereur du Japon qui permet à son peuple d'accepter de déposer les armes en rejetant la charge du crime contre les Américains, et du côté américain, on a besoin de justifier de ces énormes dépenses et montrer en même temps aux soviétiques qu'on possède une arme absolue. Vous avez donc là la double origine d'un mythe, alors que vous devez faire intervenir dans votre compréhension de la décision japonaise de déposer les armes, vous devez faire intervenir cette offensive soviétique gigantesque qui est aujourd'hui encore fort mal connue du public français.
On va revenir en France pour aborder peut-être justement ce dont vous parliez dans votre introduction, la question de la défaite française de 40 et de cette image encore très très fortement ancrée, quelles que soient les générations d'ailleurs, sur cette idée que cette défaite était inéluctable, que quelque part c'était joué, pour d'ailleurs un certain nombre de raisons. Qu'en est-il réellement de cette question et pourquoi un mythe a été créé, ou plusieurs d'ailleurs, autour de cette question ?
Lorsque le maréchal Pétain accède à la présidence du Conseil, le 17 juin 1940, il explique que nous avons été vaincus parce que, dit-il, trop peu d'hommes, trop peu d'armes, trop peu d'alliés. Il est le créateur du mythe. On a perdu parce qu'on était beaucoup plus faible que les Allemands. Et ça, la propagande de Vichy ne va pas cesser de le répéter. C'est un miroir complaisant que le maréchal tend au peuple français éperdu, qui fuit sur les routes de l'exode, devant cette défaite incroyable, foudroyante, la première puissance militaire d'Europe, celle qui a vaincu, qui a tenu à Verdun, celle qui a battu Guillaume II en 1918, est balayée en 6 semaines. C'est typiquement l'événement mystérieux pour la masse des gens qui nécessite l'utilisation d'une formule magique, d'un mythe. Il faut donner une explication. Comment c'est possible ? Comment on a pu être battu aussi vite ? Alors il y a des mythes qui vont se créer. Et le premier, le plus simple, c'est cette idée que nous étions totalement, irrémédiablement inférieurs et que c'était joué d'avance. Mais il y a d'autres mythes qui ont été utilisés. Le mythe de la trahison, par exemple. Vous avez encore des gens à droite et à gauche, qui pensent que la France a été trahie en 1940. Encore une fois, on fait intervenir une espèce de causalité diabolique, une sorte de théorie du complot avant l'heure, où la droite va dire « on a été battu à cause des 40 heures parce que l'ouvrier français n'a pas assez travaillé » ou parce que la cinquième colonne a trouvé des appuis dans le monde ouvrier, syndicaliste et communiste, donc on va accuser la gauche d'avoir fait le lit de la défaite, en nous désarmant moralement et matériellement. Ça, c'est la vision de droite. Et puis vous avez une vision de gauche, avec encore aujourd'hui une éminente représentante, une historienne française, que je ne citerai pas, qui pense que la France a été trahie par les classes possédantes, les élites dirigeantes, par sa bourgeoisie. Ça, c'est la thèse, on va dire, de gauche et d'extrême-gauche, qui aujourd'hui encore a des adeptes. Ça ne tient pas. La thèse de droite sur la trahison du Front populaire. Le Front populaire a réarmé. Blum a fait voter des crédits massifs que notre état-major n'a même pas été capable d'utiliser entièrement. On ne peut pas dire que le Front populaire n'a rien fait. Car le Front populaire, et Léon Blum, malgré toutes les faiblesses dont il a fait preuve par ailleurs, notamment dans la question espagnole, Léon Blum comprend le danger nazi, bien mieux que Pierre Laval, qui était là avant lui. Il a donc réarmé. Le dossier est vide. L'accusation que l'on fait aujourd'hui de dire la bourgeoisie française a vaincu, elle a dit plutôt Hitler que le Front populaire. Cette phrase, combien de fois ne l'a-t-on pas entendue ? Elle est absurde. Qui a trahi ? Des noms, des preuves, des dates, des documents ? Il n'y en a pas. On sait bien que la bourgeoisie française, je pense, bien sûr, il y a eu des collabos, on va vous sortir Louis Renault. Mais on oublie que dans le même temps, la famille Michelin ou la famille Peugeot, elle a résisté jusqu'à sacrifier son propre outil de travail. Et ce n'était pas facile. Donc on ne peut pas, cette idée ne tient pas. Mais revenons au plus fort des mythes, parce que c'est celui qu'on nous sert encore aujourd'hui, c'est que la France s'était jouée d'avance. On était des nains à côté d'une armée allemande surpuissante. En réalité, quand on regarde le rapport de force, on s'aperçoit que cette armée française, elle n'est pas si mauvaise. D'abord parce qu'elle a plus de chars que les Allemands, il y en a plus. Et souvent, de meilleure qualité. Je ne vais pas vous abrutir avec des données techniques, mais on en a deux, le Somua et le char B1 bis, qui sont bien mieux armés, bien mieux blindés, et qui font bonne figure. Notre artillerie est supérieure à l'artillerie allemande. Nous avons des unités excellentes, entièrement motorisées. Nous avons 3 DLM, des divisions légères mécanisées, qui sont aussi des sortes de Panzer-divisions, même si on peut discuter sur la définition exacte du terme, à la française. Il y avait un outil respectable. Et nous avions, quand Pétain dit « nous n'avons pas d'alliés », l'Angleterre, excusez-moi du peu, première puissance coloniale, première puissance financière, l'Angleterre est notre allié, nous ne sommes pas seuls. Et il y a un corps expéditionnaire britannique, le BEF, qui est formé d'une petite armée de 10 divisions, mais ultra moderne, entièrement motorisée. L'armée française avait de quoi, si ce n'est l'emporter, du moins tenir la dragée haute à son adversaire. Nous n'avons pas, tout n'était pas joué. Le nombre des hommes, le nombre des armes était suffisant. Alors il y a une infériorité, elle est vraie, dans le domaine de l'aviation. On arrive en effet à une égalité du nombre de chasseurs et de bombardiers si on additionne toute la Royal Air Force avec notre armée de l'air. Mais en fait, on sait bien que les Anglais ont gardé chez eux une partie de leur outil stratégique, les quadrimoteurs, et une partie de la chasse pour pouvoir défendre leur île. Mais si la campagne avait duré, ces moyens anglais se seraient investis en France. Mais admettons qu'on ait une faiblesse dans l'aviation. On aurait quand même pu faire meilleure figure. Donc la cause, elle est à chercher ailleurs. La cause, elle est à chercher dans, non pas la faiblesse stratégique de notre commandement, le général Gamelin. Est-ce qu'il y a un homme plus vilipendé dans l'histoire de France que Gamelin, enfermé dans son PC de Vincennes? Certainement pas. Mais Gamelin est une bonne tête stratégique. C'est un homme qui comprend que la guerre sera longue et que ceux qui la gagneront seront ceux qui seront le plus vite organisés l'outil industriel. Il a donné un certain nombre de consignes tout à fait remarquables pour la mobilisation de l'outil industriel, pour la coordination des moyens avec l'Angleterre, qui font de lui un homme qui a compris ce que la guerre allait devenir. Mais là où il a été dramatiquement inférieur à ses homologues allemands, c'est qu'il n'a pas pensé le niveau en dessous de la stratégie, qui est le niveau des opérations, et qu'il a notamment laissé s'opérer sur le terrain une répartition des forces qui n'était pas la bonne, visiblement. Et le malheur de notre pays est qu'en face, Hitler et Manstein, le meilleur de ses généraux, ont vu la faille dans notre plan d'opération et ont su engager la partie moderne de leur armée exactement sur ce point-là. Et il y a eu un effet de levier des multiplicateurs. Mais cette armée allemande, des gens de ma famille l'ont vu défiler à Paris en 1940, cette armée allemande, elle va à cheval. Elle va à cheval. Il y a 10 panzers, 10 divisions blindées qui sont mécanisées. Il y a quelques divisions mécanisées, motorisées également, d'infanterie motorisée, mais c'est tout. La masse des 143 divisions qui s'investissent en France, le compte n'est pas difficile à faire. Il y en a 143 moins 16, faites le calcul, c'est-à-dire 127 divisions allemandes qui sont des divisions quasiment de type 14-18 avec une logistique à cheval et des hommes qui vont à pied. Il y a très peu de camions. Donc les Allemands avaient une armée qui fondamentalement était une armée duel en quelque sorte, avec deux parties, une partie pas tellement plus forte que les armées du Kaiser en 1918, grosso modo, et à part quelques domaines, notamment dans l'artillerie anti-char, cette armée-là n'est pas particulièrement performante, elle ressemble beaucoup à notre armée à nous. Mais par ailleurs, ils ont un outil révolutionnaire qui est la division Panzer, cette idée de les masser en colonne compacte couverte par l'aviation, et surtout, cette idée de l'investir exactement au point focal, au point le plus faible de la défense française. Donc là, ce combat, il a été perdu pour des raisons contingentes, c'est-à-dire des raisons qui n'étaient pas nécessaires, inéluctables et inévitables. Tout n'était pas joué d'avance. Et c'est important. Parce que si tout n'était pas joué d'avance, ça veut dire qu'il y a une explication logique militaire à cette défaite et qu'on n'a pas besoin de faire un procès d'intention à telle ou telle classe de Français ou à tel ou tel régime politique. Évidemment, ça change complètement notre compréhension de l'événement. Et ça, je pense que c'est une des réussites de cet ouvrage que d'avoir réussi Chiffre à la pluie à le montrer.
Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Jean Lopez, pour ces
précisions. Merci, mesdames et messieurs.